Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junier. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Et des skis à la main, et les gens, etc. Ce n'est pas évident. Puis, faire la queue pour avoir son tire-fesse. Émile est inquiet, car il a un peu de vertige, et il n'est pas très adroit. Et oui, cela arrive, même aux gens bien. Mais il faut cacher ses faiblesses, surtout celles dont on n'y peut rien, car les gens ne vous pardonnent rien. La dernière fois qu'il avait skié, il avait 15 ans. Sera-t-il encore? Enfin, la machine à se mettre entre les jambes. Surtout, ne pas la louper. car les autres derrière risquent de gauler. Bien, s'agripper. Attention au ski. Que l'on porte comment? Faut voir les autres. Allez, 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 allez. Voilà. J'ai pris la tige. Donc, je tiens à la main. Vite, vite, mettre le machin entre les jambes. Et les skis que l'on tient à la main, on aurait dû les mettre au pied. Tant pis, tant pis. Ne regardez que le haut, pas le bas. De toute façon, le temps, la bouchée, on ne voit rien. Les mille est tout raide. Il serre fortement sa machine entre les cuisses et la tige pour les mains. Ça monte, ça fait des bosses, mais ça peut aller. Il a tellement chaud qu'il n'a plus faim, ni soif, ni rien. Enfin, on arrive. Ouf! Sortir de ce machin, c'est-à-dire lâcher à temps voulu sans se casser la gueule et en gardant les skis, les tiges. Ouf! Voilà! J'ai tout lâché. Je suis à terre. Bon, souvent la foule. Ces chaussures, qu'elles font mal. Bon, me voilà en haut de la piste. Oh, que c'est raide. Barbara, Fernande et les autres sont là. Là, allons-y. Sans nous casser la gueule. Il se met à côté de Fernande qui lui dit « Ça va, Emile ?»« Oui, ça va. » Il est complètement essoufflé et pâle comme la neige. Mais c'est ce qui est à terre et les met. C'est pas évident du tout. Surtout que le sol qui glisse, les skis fichent le camp tout le temps. Enfin, voilà. Ouf. Non, c'est pas fini. Il faut descendre. Et oui, on est là pour ça. Fernande qui est prête, elle, depuis longtemps, lui dit « On y va ?» Elle se lance. Il est obligé d'en faire autant. Et hop, on se laisse glisser comme il peut, sans rien voir jusqu'en bas. La peur lui a raidi les nerfs. En bas, il s'est arrêté brut, comme un paquet de neige poussiéreuse. Fernande est un peu plus loin. Elle va vers lui et lui sourit. Tu as une technique à toi, et efficace, hein? Un vrai boulet. On recommence? Il est essoufflé, raide. Non. Il ne sait que répondre. Il se dit furieux. Il faut recommencer ce parcours de combattant. Il tire face, et tout ça, pour descendre, et sans risquer de se casser quelque chose. Non, non, celui-là. Ça m'a suffi alors. Je vais rentrer à Lyon, tranquille, voir mes copains, et voilà. Elle s'éloigne et lui dit, viens, il la suit, furieux. Jusqu'à 17h. On descendu 5 fois la piste. On perdu 10 fois plus de temps à faire la queue au tire-fesse qu'à skier. Il a eu faim toute la journée. Froid, peur, furieux, mouillé, mal aux pieds, aux muscles. Thank you. 17 heures, lorsqu'ils sont rentrés au chalet, trempés, essoufflés, gercés, mal de partout, Émile est allé dans sa chambre pour prendre une douche et se changer. Descendu pour manger quelque chose. Barbara lui dit : j'ai pas envie de faire à manger. Nous allons manger chez Pedro une pizza. Et ils sont allés une demi-heure plus tard se faire remouiller et en plus la boue que les voitures jettent sur les passants. Pedro, c'est une pizza, comme il y en a de partout. Du monde dans la pizza, du bruit, de la musique. Ils trouvent une place et commandent leur pizza. Pâte sèche, goût de papier mâché. Dessus, une sauce rouge. Des olives par-ci, par-là, ou deux filets d'hareng, plus des œufs durs. Mange vite. Faut vite manger, bien fait. Après, on a encore envie. Mais Émile ne dit pas qu'il a encore faim. Ça ne se fait pas. La soirée s'est passée à jouer au Monopoly. Émile déteste les jeux. Il était obligé de jouer jusqu'à 2h du matin. Puis Barbara a dit qu'il fallait aller se coucher parce que demain le ski. Petit Vénard, va, vous en profitez de la neige, hein? Comme on aime ça! Émile croit devenir fou. Et la semaine se passe ainsi. Le même programme, toujours comme le premier jour. Émile, chaque nuit, prie pour qu'il n'y ait plus de neige. Mais non, le lendemain matin, elle est encore là. Santé, va. Thank you. mauvais jour arrive. On parle le premier dans le début de l'après-midi. Ouf! Mais avant de partir, il faut se farcir la soirée du réveillon pour la nouvelle année. Avec les mêmes ploucs que pour la Noël. On danse un peu plus longtemps et on mange une fondue. Et cette fois, on a forcé Emile à en manger. Enfin, il en a pioché deux fois dans la casserole. Puis, tout le monde s'est embrassé pour se souhaiter la bonne année et rembrasser, et embrasser, et rembrasser.
Tiens, mon frère. Oui, il est parti pour quelques mois au Pérou. Une année, il voyage.
À 7 heures du matin, ils sont couchés. Ouf! Le lendemain matin, à 11 heures, Émile a commencé à préparer ses bagages. Il l'a emmené pour étudier et il n'a absolument rien fait. Il a fait ses bagages, il est descendu. Il les a retrouvés pour manger une purée et des œufs. Puis, le moment du départ est venu. Ils ont téléphoné pour un taxi. Barbara et son mec restent encore un peu. Au moment de se dire au revoir, pour remercier Barbara, Émile donne son paquet. Mais il ne fallait pas. Et en cachette de tout le monde. Toi, tu n'es pas comme les autres. Elle l'embrasse. Et ouvre son paquet. C'est un grand chaudron en vieux cuivre rouge. Oh, merci! Justement, j'en voulais un pour l'entrée, pour y mettre des fleurs dedans. Merci, tu es chou! Elle l'embrasse une seconde fois. Ils voient par la porte de la fenêtre que le taxi est arrivé. Ils se disent au revoir. Et Émile et Fernande les quittent. Ouf! À Moutier, à la gare, la même foule. Ils réussissent malgré tout à trouver une place assise, tous les deux ensemble. Une fois que le train est parti, elle lui dit « C'était bien, hein? Tu sais que Barbara vous invite pour Pâques ?» il la trouva très bien. Il m'a dit que tu étais chou. Enfin, Park, c'est pour bientôt. Emile est furieux. Il se dit plus jamais, je plus. Non, non. Il a les pieds en sang, mal dans tout le corps. Pris en rhume, les lèvres gelées. Fin. Non, plus jamais ça. Les femmes, c'est fini. Fini, les femmes. Fini.
D'avoir directement
des mots. Voilà.
Donc vous avez procédé
de
prendre des
intercités. Ah, d'accord, non, mais je veux dire, évidemment, si je veux pour aller à Bulle, ça va pas bien aller.
Arrivé à Perrache, épuisé, vidé, la foule, l'humilité, la grisaille. Ils ont pris un taxi, donné l'adresse de Fernande. Il a honte de s'en débarrasser, comme ça, mais tout de même. Le taxi s'est arrêté devant chez elle. Elle lui dit « Alors à bientôt, je te téléphone. On a passé un bon moment, hein ?» Elle l'embrasse sur la joue et sort de voiture. Ouf ! Il va enfin sonner chez lui. C'est sa mère qui lui a ouvert. Bonjour, ça va ? Elle le fait rentrer et ferme la porte. Alors, ça s'est bien passé ? Plus jamais ça. Que s'est-il passé ? Je suis crevé. Je me couche. Une fois déshabillé dans son lit, il a tout juste le temps d'embrasser sa croix qui s'endort. Le samedi, il revoit Gérard. Après l'amour, dans leur cove, il lui a raconté son séjour à la neige. Ils en ont bien ri, assis sur les marches des escaliers. Les jours passent. We'll be right back. fois par semaine, il passe sa soirée chez le petit pâtissier Jérôme à Vienne. Ils écoutent de la musique, lisent des bandes dessinées assis à terre. Jérôme lui montre ses dessins aussi, car il se détend en dessinant. Ce sont des dessins fantastiques, irréels. Jérôme lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, par mes études. Et toi ?»« Tu n'as pas un loisir particulier ?»« Non. J'aime bien le cinéma, les livres. »« Mais tu ne crains rien, tu ne fais rien ?»« Non. Comment veux-tu que je fasse ?» J'ai presque pas d'argent. Et puis quoi faire? Hein? Dernier jour arrive. On parle le premier dans le début de l'après-midi. Ouf! Mais avant de partir, il faut se farcir la soirée du réveillon pour la nouvelle année avec les mêmes ploucs que pour la Noël. On danse un peu plus longtemps et on mange une fondue. Mais cette fois, on a forcé Emile à en manger, enfin, il en a pioché deux fois dans la casserole. Puis, tout le monde s'est embrassé pour se souhaiter la bonne année, et rembrassé, et embrassé, et rembrassé.
Tiens, mon frère. Oui, il est parti pour quelques mois au Pérou. Une année, il voyage.
À 7 heures du matin, ils sont couchés. Ouf! Le lendemain matin, à 11 heures, Émile a commencé à préparer ses bagages. Il l'a emmené pour étudier et il n'a absolument rien fait. Après avoir fait ses bagages, il est descendu. Il les a retrouvés pour manger une purée et des œufs. Puis, le moment du départ est venu. Ils ont téléphoné pour un taxi. Barbara et son mec restent encore un peu. Au moment de se dire au revoir, pour remercier Barbara, Émile donne son paquet. Mais il ne fallut pas, il y a que chose de tout le monde. Toi, tu n'es pas comme les autres. Elle l'embrasse et ouvre son paquet. C'est un grand chaudron en vieux cuivre rouge. Oh, merci! Justement, j'en voulais un pour l'entrée, pour y mettre des fleurs dedans. Merci, tu es chou! Elle l'embrasse une seconde fois. Ils voient par la porte de la fenêtre que le taxi est arrivé. Ils se disent au revoir. Et Émile et Fernande les quittent. Ouf! À Moutier, à la gare, la même foule. Ils réussissent malgré tout à trouver une place assise, tous les deux ensemble. Une fois que le train est parti, elle lui dit « C'était bien, hein? Tu sais que Barbara nous invite pour Pâques. Elle t'a trouvé très bien et m'a dit que tu étais chou. Enfin, Pâques, c'est pour bientôt. » Émile est furieux. Il se dit « Plus jamais je plus, non, non. » Elle est pieds en sang, mal dans tout le corps. Pris en rhume, les lèvres gelées, fin, non, plus jamais ça. Les femmes, c'est fini, les femmes, fini.
Vous avez possibilité de prendre des intercités.
Ah ben ça d'accord, non mais je veux dire, évidemment si je pour aller à Bulle, ça va pas bien aller.
Arrivé à Perrache, épuisé, vidé, la foule, l'humidité, la grisaille. Ils ont pris un taxi, donné l'adresse de Fernande. Il a honte de s'en débarrasser, comme ça, mais tout de même. Le taxi s'est arrêté devant chez elle. Elle lui dit « Alors à bientôt, je te téléphone. On a passé un bon moment, hein ?» Elle l'embrasse sur la joue et sort de voiture. Il va enfin sonner chez lui. C'est sa mère qui lui a ouvert. Bonjour, ça va ? Elle le fait rentrer et ferme la porte. Alors, ça s'est bien passé? Plus jamais ça. Que s'est-il passé? Je suis crevé. Je me couche. Une fois déshabillé dans son lit, il a tout juste le temps d'embrasser sa croix qui s'endort. Le samedi, il revoit Gérard. Après l'amour, dans leur cove, il lui a raconté son séjour à la neige. Ils en ont bien ri, assis sur les marches des escaliers. Les jours passent. Une fois par semaine, il passe sa soirée chez le petit pâtissier Jérôme à Vienne. Ils écoutent de la musique, lisent des bandes dessinées assis à terre. Jérôme lui montre ses dessins aussi, car il se détend en dessinant. Ce sont des dessins fantastiques, irréels. Jérôme lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, par mes études. Et toi ?»« Tu n'as pas un loisir particulier ?» Non. J'aime bien le cinéma, les livres. Mais tu ne crains rien, tu ne fais rien? Non. Comment veux-tu que je fasse? J'ai presque pas d'argent. Et puis quoi faire? Je ne sais pas, moi, tu pourrais dessiner comme moi? Écrire? Écrire, peut-être. Eh bien, fais-le. Je n'ai pas de sujet. C'est pas moi écrit ce que tu ressens, ta vie. Ma vie n'est pas intéressante. Sublime-la. Tu écris la vie que tu aimerais vivre. Là, tout est possible. Essaye. Je vais essayer. Ça fera du bien. Tu es gentil. Tu as trouvé la clé qui me sortira de ma vie. Merci. Et il continue la soirée à discuter. Émile lui raconte qu'il n'est pas heureux, qu'il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait. J'ai toujours été obligé de casser ce que j'étais, aimais vraiment. Même l'amour m'est interdite. Personne ne m'aime. Jérôme se penche et lui donne un baiser sur la joue. Ne dis pas cela. Moi je t'aime. Ils sourient tous deux. Le lendemain, Émile est décidé d'écrire. Le soir, en revenant des cours, il entre dans une papeterie. Il s'achète un cahier, un gros cahier de 300 pages. Une fois dans sa chambre, il s'assoit à son bureau. Le cahier en face de lui. La plage blanche le regarde. Une plage blanche, c'est beau, c'est propre. Ça sent le neuf. Une fois qu'on en dit tout ça, on a l'air qu'on l'ait touché avec la main, bien à plat dessus, pour sentir le papier lisse. Il faut bien prendre le stylo et la remplir de quelque chose. Mais quoi? Alors on cherche, on mordille le stylo, on tapote la table avec. Quoi? Que pourrais-je écrire d'intéressant? Dans ma vie, il n'y a eu rien d'intéressant. Je peux même rien sublimer. Je n'ai rien fait, rien dit de particulier. Bien sûr, je n'ai pas vécu. Je ne peux pas parler de ça. C'est trop intime. Mais quoi? Je n'ai rien connu d'exceptionnel. Mais en disant cela, il sent sa gorge se serrer. Il a l'impression d'avoir trahi. Patrick, c'est exceptionnel. Il n'y a que ce que j'ai vécu avec lui qui soit vraiment grand. Je vais écrire notre histoire. Mais attention, je changerai les noms, les lieux, pour que l'on ne nous reconnaisse pas. Voyons, changeons le nom d'abord. Patrick deviendra Didier. Moi, Jean-Pierre. Je suis issu d'une famille modeste. Mon père est ouvrier. Ma mère ne travaille pas. Nous habitons dans le 7e arrondissement, quartier populaire. Voilà. Marquons tout ça sur une feuille et écrivons. Plus tard, il a écrit trois pages, trois grandes pages de sa petite écriture fine. Il a écrit d'un seul jet, sans rature. Il n'a même pas vu passer le temps, tellement il était pris. Cela lui faisait du bien de faire revivre son amitié amoureuse. On a frappé à la porte. Il a sursauté. Sa mère lui dit à travers la porte: il est l'heure de dîner. Bien, je descends. Il se frotte les yeux, car il s'est tellement concentré sur sa feuille blanche qu'il n'y voit que du noir. Regarde les pages qu'il a écrites. Surpris de tout ça, ferme le cahier, se lève difficilement, car il a des courbatures de partout, et il sort de la pièce. Et tous les soirs, après son étude, il écrit. Un jour, sa mère lui dit: qu'on le demande au téléphone. Il sort de la chambre. Dans le bureau de son père, il décroche. Allô ? C'est Fernande. Il ne pensait pas du tout, mais plus du tout à celle-là. Mais plus du tout. Surtout en ce moment, dans sa fièvre d'écrire et de revivre ce qu'il a aimé le plus, elle tombe comme le cheveu sur la soupe. Il ne dit rien. Elle lui demande. Ça va ? Oui. On peut se voir ces jours si tu veux. Non, je ne peux pas, j'ai beaucoup à faire. Tu pourrais bien prendre une demi-journée de repos. Non, je ne peux pas vraiment. Bien, au revoir, à bientôt. Oui, c'est ça. Et il sort du bureau. Il voit sa mère qui était derrière la porte. Elle lui dit, c'était Fernande, elle est gentille. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Rien, elle voulait qu'on se voie. C'est bien ça, je n'ai pas le temps. La mère soupire et dit, je ne me prends toujours son temps pour les jeunes filles, pas moi. Tu pourrais tout de même, j'ai du travail, et puis ça ne me dit rien de sortir avec elle. Tu veux sortir avec qui alors? Il ne répond pas. Tu finiras vieux garçon. Elle le voit qui s'éloigne, retourner dans sa chambre. Le samedi soir, il a amené son cahier chez Jérôme pour le lui lire. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Juliette Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Juliette Jean-Pierre.